Conférence privée par le père Philippe à Rimont, le 14 janvier 1988.
Nous allons continuer cette lecture de l'Apocalypse pour essayer de mieux comprendre le mystère de la sagesse de Dieu qui nous dirige, qui nous conduit. Mieux comprendre cette lutte incessante en laquelle nous nous trouvons. La lutte de la croix présente dans l'Église. C'est cela, je crois, que l'Apocalypse nous montre. Nous considérons la croix comme une chose passée. Et instinctivement, nous la gommons, puisque Jésus est ressuscité. Et donc, nous sommes au-delà. Nous avons une peine énorme à regarder que la croix est présente à chaque instant de la vie de l'Église. Je ne dis pas que tous les chrétiens la vivent tout le temps, mais à certains moments, la croix s'implante dans notre vie de façon directe et immédiate. Folie, scandale, sagesse pour le croyant. Et nous sommes prédestinés dans la croix du Christ, de sorte que je me demande si les sceaux qui représentent cette première vision ne sont pas en définitive les grandes dimensions de la croix, puisqu'on est prédestiné dans le cœur du Christ. On est prédestiné dans le cœur blessé de l'agneau. On est tous marqués du mystère de la croix. Et pour nous, la vie religieuse doit être ce mystère de la croix que nous prenons, que nous acceptons, nous voulons la vivre pleinement. C'est ça le mystère de la vie religieuse, autrement ça ne signifie rien du tout. Ça devient folie et scandale quand vous regardez la croix, quand vous regardez la vie religieuse en dehors du mystère de la croix, c'est folie et scandale. C'est pas la vie religieuse qui nous permet une plus grande efficacité. Ah, sûrement pas. C'est pas la vie religieuse qui nous permet un plus grand développement humain. Sûrement pas. Chacun d'entre nous, on aurait pu faire autre chose. Et si on avait voulu, on l'aurait fait mieux que ce qu'on fait maintenant. Ça, c'est bien évident, chacun d'entre nous. Mais ce qui est unique dans la vie religieuse, c'est qu'on est lié à la croix du Christ. Et donc, il y a une fécondité. Je ne dis pas une efficacité, mais une fécondité. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruit. Ça, c'est la fécondité. Et la fécondité passe par la croix. Et la fécondité ne peut que passer par la croix. C'est ça le grand mystère de la vie religieuse. C'est aussi le mystère de la famille chrétienne. Toute famille chrétienne est marquée par la croix, d'une manière ou d'une autre. Et la vie religieuse d'une manière plus immédiate. La vie religieuse a quelque chose de plus impératif. Ça, il faut le reconnaître. Objectivement, ça ne veut pas dire que tous les religieux sans plus sain que les gens mariés. Ce serait très faux de dire ça. Mais objectivement, le mystère de la croix est plus immédiat. Et nous devons, dans notre vie religieuse, donner le témoignage de ce mystère de la croix présent dans le monde d'aujourd'hui. Et ce mystère des sceaux, après cette grande vision que nous avions vue, n'est-ce pas ? Cette grande vision de l'agneau qui peut seul enlever les sceaux. Vous voyez, comme manière symbolique, puisque c'est toujours un langage symbolique, l'Apocalypse, c'est même terriblement symbolique. Ce qui fait que c'est tellement difficile de l'interpréter, puisque tout symbole, vous savez bien, n'a pas qu'un seul sens. Quand on est en face d'une connaissance univoque, ça n'a qu'un sens. Animal, On sait très bien. Oh, on sait à peu près. Ce qui est raisonnable, en plus, c'est plus difficile à saisir. Tandis que la connaissance symbolique a toujours diverses significations. Mais il y a un ordre dans la diversité de ces significations. Et donc, il y a une première signification. Du reste, quand vous regardez les interprétations de l'Apocalypse, c'est toujours très déroutant à cause de ça. C'est qu'on voit qu'il y a des interprétations multiples, diverses. Alors, quand on voit ce chapitre 4, on voit le ciel qui s'ouvre et assis sur le trône, quelqu'un, cette vision du Père, cette vision du Créateur, qui a dans ses mains ce rouleau, ce livre, écrit en dedans et par derrière, scellé de sept sceaux. Et personne ne peut enlever les sceaux, c'est-à-dire, c'est un livre secret. C'est ça que ça veut dire, symboliquement. C'est un livre qui demeure secret. Et on voit Jean qui pleure. On ne voit pas souvent les pleurs de Jean. Pour nous, c'est important. Je pleurais beaucoup. Il faut venir consoler Jean. Parce qu'il pleurait beaucoup. Parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Alors les vieillards, c'est l'humanité, c'est nous. Nous faisons partie des vieillards. C'est nous en tant que, je crois, en tant qu'on est fidèle. Le vieillard exprime cela. C'est celui qui a longuement, qui a une sagesse. Le vieillard, c'est l'exemple de la sagesse et donc de la fidélité. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, voici qu'il est vainqueur, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre vivants et au milieu des vieillards un agneau debout, comme égorgé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés dans toute la terre. Et il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et lorsqu'il prit le livre, les quatre vivants, je vous ai dit, c'est le mystère de l'incarnation, c'est Jésus. C'est les quatre évangélistes en tant que témoins du mystère de Jésus, pour nous donner ces quatre visions particulières sur le mystère de Jésus. Et lorsqu'il eut pris le livre, les quatre vivants et les 24 vieillards tombèrent devant l'agneau, ayant chacun une cithare et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantent un cantique nouveau, disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Parce que tu as été égorgé et tu as acheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu un royaume et des prêtres. Ils régneront sur la terre. Vous voyez le mystère de la croix comme c'est présent. C'est le mystère de l'agneau comme égorgé. Donc c'est bien la blessure du cœur de Jésus. La blessure du cœur de Jésus donne à l'agneau comme un droit divin. Il est roi. Et donc, tout le mystère de la prédestination se fait à travers le cœur de Jésus. Dieu nous regarde à travers le cœur de son Fils bien-aimé. Et je vis lorsque l'agneau ouvrit l'un des sept sceaux, j'entendis l'un des quatre vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Alors, c'est très curieux. L'agneau qui ouvre, l'agneau, c'est le mystère de la rédemption. Et j'entendis l'un des quatre vivants, donc c'est Jésus, qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» C'est Jésus qui appelle pour que Jean puisse voir l'ouverture des sept sceaux. Et je vis, voici un cheval blanc. Et celui qui le montait avait un arc. Il lui fut donné une couronne. Il sortit en vainqueur pour vaincre. Le cheval blanc symbolise de la victoire. Le blanc, c'est le symbolisme de la victoire de l'amour. Je crois, ce que je vous avais dit la dernière fois, je sais que c'est contesté. Tout ce que je vous dis est contesté. On en trouvera toujours quelqu'un qui dira autre chose. Lisez l'Apocalypse du Père Allot, ça vaut la peine. Ça ne vous apprendra pas grand-chose, mais c'est très intéressant. Non, ça ne vous apprendra pas grand-chose au point de vue, je veux dire, au point de vue profond, au point de vue spirituel. Le Père Allot fait un travail énorme d'érudition. Il a ramené tout, tout. Il faut lire une fois ça dans sa vie, ça vaut la peine. Mais ça ne vous donne pas, vous pouvez lire ça, théologiquement, ce n'est pas la théologie de l'Apocalypse. Alors je crois qu'on doit donner la théologie de l'Apocalypse. L'Apocalypse est parfaite pour rassembler tous les érudits du monde, pour en donner leur petit point de vue, ou faire, vous savez, le grand livre de l'Apocalypse. Le plus grand livre qui a été fait, c'est le livre de l'Apocalypse. C'est un livre extraordinaire, l'illustration de l'Apocalypse, qui existe. Ce livre se transporte, je l'ai vu, c'est très beau. Mais c'est pas fait pour ça. Quelle est la finalité de l'Apocalypse? C'est pour nous. C'est le livre de notre espérance. Quand nous sommes accablés, que nous sommes tentés de désespoir, lisons l'Apocalypse. Alors ça nous donne une force étonnante. Ça, c'est quelque chose de très fort. Alors, je crois que le symbolisme du cheval blanc doit se comprendre avec le chapitre 19. Ce que je vous ai dit, 19, verset 14, où on voit le cheval blanc dans toute sa dimension. Je crois qu'il y a un grand cheval blanc. Et un petit cheval blanc. Ici, c'est le petit cheval blanc. Et le petit cheval blanc, c'est quoi? C'est notre participation au cheval blanc. Nous participons à la victoire de Jésus par la grâce. Et c'est la première chose qui nous fait enfants de Dieu, c'est la grâce. Et ce cheval blanc, c'est le Christ. Celui qui le montait avait un arc. Alors évidemment, si on regarde ça d'un point de vue matériel, on dit donc que c'est un guerrier. Vous savez que l'arc peut être aussi l'arc-en-ciel. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est dit juste avant. Autour du trône du Père, il y a l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est le signe de la paix. Il n'y aura plus de déluge. C'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel montre qu'il y a présent pour nous celui qui est le prince de la paix. Et c'est Jésus. Et c'est Jésus dans son mystère de la croix et dans son mystère de la gloire. Il est le prince de la paix. Il lui fut donné une couronne, il sortit en vainqueur et pour vaincre. Donc c'est bien la paix, la béatitude des pacifiques. Et lorsque l'agneau ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième vivant qui disait « Viens !» Et sortit un autre cheval rouge feu. Alors là, c'est moins bon. Rouge feu. Si vous regardez au chapitre 12, hein, puisque autant que possible, interprétons l'Apocalypse d'après l'Apocalypse. Vous avez le dragon. Il a couleur rouge feu. Rouge-feu, c'est quoi? C'est la couleur de celui qui est toujours en colère. Le démon est toujours en colère. Tout le temps. C'est pour ça qu'il nous met de temps en temps en colère. Mais nous, ça passe, heureusement. Tandis que lui, il ne cesse d'être en colère. C'est ça qui fait peur du reste. C'est pas drôle la présence du démon. Alors c'est le cheval, vous voyez, c'est pas le dragon. C'est très curieux. Le symbolisme du cheval. Hein. Le cheval est un animal noble. Ça c'est sûr, pour un grec. C'est un animal noble. Et pour les anglo, et pour les anglo-saxons. C'est un cheval très noble. Et donc, ça exprime une certaine noblesse. C'est très curieux, ça. C'est pas le dragon rouge-feu. Mais il y a ce cheval rouge-feu. Et à celui qui le montait, il lui fut donné d'ôter la paix de la terre. Donc, c'est bien l'antithèse du cheval blanc. Ça peut être plus net. Le cheval blanc donne la paix, et lui, il ôte la paix de la terre. Et de faire qu'on s'égorgeât les uns les autres, il fut donné un grand glaive. Alors je crois que c'est les conséquences du péché originel qui sont en nous. Dieu nous prédestine à travers ces conséquences du péché originel. Et en nous, et ça c'est Saint Jean qui le dit dans la première épître, il y a en nous la concupiscence des yeux, la concupiscence de la vie, la concupiscence de la chair. Alors il faut choisir lequel. Rouge feu, c'est la lutte, c'est la guerre. Est-ce que c'est l'orgueil qui est à l'origine de la guerre? Je crois. Et lorsque l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième vivant qui disait « Viens !» Et je vis, et voici un cheval noir. Et celui qui le montait avait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre vivants comme une voix qui disait « Un denier la mesure de blé, un denier les trois mesures d'orge, et l'huile et le vin. » Ne leur nuit pas. La famine, l'inverse de la fécondité, conséquence du péché. C'est le cheval noir. Et lorsque l'agneau ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième vivant qui disait « Viens ». Et je vis, et voici un cheval verdâtre. Celui qui le montait s'appelait la peste, et l'Hadès l'accompagnait. Symbolise de la peste, hein. La peste, ça prend des noms différents selon les différents moments. Il y a une peste propre à la fin du XXe siècle, on le sait. Et l'Hadès accompagnait, l'Hadès l'enfer. Et il leur fut donné pouvoir sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste, par les bêtes sauvages de la terre. Vous voyez, évidemment, il y a le danger pour nous, parce qu'on est toujours très logique. Alors, j'interprète le cheval blanc en fonction des autres. Et je dis nécessairement que c'est celui aussi qui fait la guerre. Personnellement, puisqu'il s'agit de la prédestination, ça c'est sûr, les sceaux c'est la prédestination, c'est donc le regard de Dieu sur nous. Et qu'est-ce que c'est que ce regard de Dieu sur nous? C'est le mystère de la grâce qui nous est donné. Or la grâce nous apparente directement à la croix du Christ et à la victoire du Christ. Donc, symboliquement, ça ne peut pas être représenté autrement que cheval blanc avec l'arc. Évidemment, si c'était l'arc en ciel, ce serait mieux. Mais justement, l'arc n'est pas dans le ciel tant qu'on est sur la terre. C'est vrai, c'est la victoire du Christ, elle n'est pas visible. Quand on dit qu'on est victorieux, on est victorieux comme chrétien, mais quelquefois on apparaît vraiment comme des vaincus. Et la plupart du temps, c'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est le premier. On sait dans la foi qu'on est victorieux. On sait que Christ est victorieux et qu'il est victorieux en nous. Mais qu'est-ce qui apparaît ? C'est le cheval noir, c'est le cheval verdâtre, c'est le cheval rouge feu. Ça, c'est beaucoup plus visible. Je crois que le mystère de la grâce, vous voyez, est très enfoui en nous. Toute notre psychologie, elle n'est pas du tout la psychologie des saints. Notre vie divine est au-dessus de notre psychologie. Elle assume de temps en temps quelque chose. Mais notre psychologie, elle est la psychologie de gens blessés. Blessés dans les conséquences du péché originel. Et donc c'est la psychologie d'êtres qui sont pris par les trois concupiscences. Concupiscence de la vie, concupiscence des yeux, concupiscence de la chair. C'est ça qui est terrible. C'est ces trois ces concupiscences. Et c'est à travers tout cela. Et alors à ce point de vue-là, c'est très beau. Vous voyez, comme illustration merveilleuse du traité de la grâce. Quand vous lisez le traité de la grâce de saint Thomas, vous ne découvrez pas tout ça. Sauf si vous êtes très proche de saint Jean. Et que vous entendez les quatre vivants qui vous disent « Viens !» Et qui vous montrent qu'en effet, la grâce en vous, c'est bien cette victoire du Christ. Mais c'est au milieu de la lutte. Chacun d'entre nous, nous ne sommes pas que des faiseurs de paix. Il y a le cheval rouge feu en nous qui amène la zizanie à cause de notre orgueil. Le démon a des complicités en nous. Et le démon veut la guerre. Ouvertement. Et nous, sous sa dépendance, sans le savoir, il y a cela. On sème la division. Le cheval noir, c'est peut-être la grosse vanité. Je croirais assez bien. Parce que la vanité conduit à la stérilité. La vanité ne vaut pas le sacrifice. Vous n'acceptez pas le sacrifice quand vous êtes mais gonflé de vous-même, la concupiscence des yeux. Vous ne faites attention qu'à une seule chose, c'est de soigner votre image, votre réputation. Ça, c'est la grosse vanité. Et bien, c'est stérile. Et ça amène la famine. Et la concupiscence de la chair, alors ça on comprend très bien, le cheval verdâtre, c'est la peste. Et c'est l'Hadès. Je crois qu'on peut facilement saisir cela. C'est en nous, vous voyez, et en même temps c'est commun. Il y a quelque chose de commun. Un œcuménisme par le bas, qui est l'œcuménisme de tous ceux qui sont blessés par le péché et conséquence du péché, chassés du paradis terrestre. Alors on va continuer d'essayer de comprendre les dimensions du mystère de la prédestination sur nous, qui sont le mystère de la croix. Jésus a porté sur lui toute l'iniquité du monde. Et donc, il y a bien cette lutte à la croix. Et lorsque l'agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel des âmes, les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient. Les martyrs. Et ils crièrent d'une voix forte, disant: jusqu'à quand, maître saint et véridique, ne juges-tu pas Et ne venges-tu pas notre sang en le redemandant à ceux qui habitent sur la terre ? Alors, ceux qui habitent sur la terre, c'est ceux qui mettent leur fin, leur finalité sur la terre. Bon, c'est toutes les idéologies matérialistes, hein, ceux qui habitent sur la terre. Il leur fut donné à chacun une robe blanche. Ils sont victorieux. Il leur fut dit de se tenir en repos encore un peu de temps. On leur demande la patience. On voudrait tellement vite, hein, que la justice de Dieu se réalise tout de suite. Vous savez, les gens les plus généreux qui quelquefois veulent savent que la justice de Dieu se manifeste et qu'on voit vite, qu'on voit bien ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Il leur fut dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu'à ce que fussent au complet et leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui vont être tués, tout comme eux. Vous voyez, le cinquième sceau, c'est très curieux, c'est comme une certaine récompense qui est donnée. Mais une récompense qui n'est pas la dernière. Dieu, à certains moments, et c'est vrai ça, quand on est victorieux des trois concupiscences, que le cheval blanc arrive à dépasser ces trois concupiscences, il y a une certaine joie intérieure, parce qu'on a été fidèle. On a été fidèle à ce que Dieu a réclamé de nous. Et on croit que c'est arrivé, la tentation. On dit, maintenant, ça y est, je suis arrivé au but. Alors, jusqu'à quand, maître saint et véridique, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang en le redemandant à ceux qui habitent sur la terre, hein ? Tous ceux qui ont mal parlé de nous, hein, qu'on voit bien. Ce désir de, au fond, d'être pleinement victorieux. Et il est demandé la patience. Il y a un rebondissement, c'est extrêmement curieux. Et c'est tellement vrai, ça. Cette tentation, vous voyez, de celui qui est juste. C'est pas encore la sainteté d'être juste. Il a lutté contre les passions, il a lutté contre les concupiscences. Et il a été fidèle par rapport à la parole de Dieu. C'est quand même grand. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient. C'est bien, c'est beau. Ce sont des gens très bien. Il y a en nous cette grâce, vous voyez, d'être victorieux de ces premières luttes. Ce n'est pas encore ce qu'il y a de dernier. Et je vis lorsque l'agneau ouvrit le sixième sceau. Alors le sixième, parce que le chiffre 7 hein, est toujours dans l'Apocalypse, par le fait même le chiffre 6 y est toujours. Et le chiffre 6, c'est toujours, toujours, c'est même très curieux, il faudra réfléchir là-dessus. C'est là où tout va son paroxysme. Alors, vous allez voir. Et lorsque l'agneau ouvrit le sixième sceau, il y eut une grande secousse. Vous voyez, secousse apocalyptique. C'est inscrit. Et le soleil devint noir comme un sac de crin. Et la lune entière devint comme du sang. Et tout, hein, toutes les prophéties disent qu'il y aura des jours de ténèbres. Hein. Répétition, c'est dit dans l'Apocalypse, c'est pas la peine de regarder les choses. Il suffit de savoir, sixième sceau, et c'est dit avec une force extraordinaire. Et le soleil devint noir comme un sac de crin. Oh là là. Et la lune devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier jette ses fruits encore verts quand il est secoué par un grand vent. Voilà, tornade. Et le figuier, ses fruits n'ont pas le temps de mûrir. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toute montagne, île, furent ôtés de leur place, et les rois de la terre, et les grands, et les capitaines, et les riches, et les puissants, et tout esclave et homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers, et les rochers des montagnes. Voyez, l'angoisse. L'angoisse. Sixième saut, l'angoisse. C'est bien ce que nous vivons. Sixième saut, l'angoisse. Et ça n'a pas qu'une importance que vous soyez roi, que vous soyez esclave, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, l'angoisse. Ils se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car il est venu le jour, le grand jour de leur colère, qui peut tenir. Et pour chacun d'entre nous, il y a un moment apocalyptique, ultime, dernier. Il y a un moment d'espérance eschatologique et qui peut durer longtemps dans notre vie. Autrement dit, pour chacun d'entre nous, il y a bien cela, il y a un moment où Dieu donne un peu de répit. C'est vrai, il y a des moments de répit. Pour tous. Cinquième. Et ça prépare la grande lutte. Et alors, moi, je crois que le sixième saut, c'est pour montrer que, de fait, les luttes ne sont pas seulement intestines. Les conséquences du péché originel sont des luttes intestines. Et les luttes sont aussi à l'égard de tout le milieu dans lequel on est. Et le milieu dans lequel on est représenté par l'univers. Et donc l'univers, à un moment donné, il est secoué. Parce que Dieu se sert des démons, il faut les appeler par leur nom, du dragon, de la bête de la terre et de la mer, pour faire que le milieu dans lequel on est devienne un milieu impossible pour nous de vivre. Quelque chose qui se détraque. On a l'impression que tout se détraque, sixième son. Alors on va essayer de regarder ces symbolismes. Parce qu'il faut essayer de comprendre ce que c'est que ce sixième saut. Parce que je crois qu'il est très important pour nous. Nous le vivons très fort aujourd'hui. On le comprend très bien. Sixième saut. L'année mariale. L'année mariale, c'est l'année des grandes luttes. Ça, c'est sûr. C'est l'année des grandes secousses. Alors, le soleil, symbolisme de Jésus, c'est la présence du Christ, le soleil, solius litier. C'est la lumière, donc c'est la présence. Il devient comme noir, comme un sac de crin, comme si la présence du Christ est occultée, cachée. Veut plus cette présence. Alors, elle est cachée. La lune, mystère de Marie, la lune entière devint comme du sang. Marie, la mère et la Vierge, eh bien alors, juste l'opposé, elle est celle qu'on regarde comme celle qui met la lutte et la division. C'est le sang. C'est une première interprétation, hein. On peut en prendre d'autres. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Les étoiles, c'est le symbolisme des docteurs, des théologiens. C'est ça, le symbolisme des étoiles. En Orient, ça reste encore comme ça. Tous les docteurs sont les étoiles du ciel. Ceux qui devraient éclairer, ceux qui devraient montrer le droit chemin. Eh bien, les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. La terre, c'est le lieu de la contingence, c'est le lieu de la relativité. Alors que les étoiles doivent donner la lumière de la vérité. Ceux qui doivent donner cette lumière de vérité tombent sur la terre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune lumière pour indiquer la route. C'est la relativité la plus absolue qui soit. Tomber sur la terre, alors on montre comment, tout le fracas que ça fait. Comme un figuier jette ses fruits encore verts quand il est secoué par un grand vent. On voit tous les livres des théologiens, vous voyez, secoués par le grand vent. Et ça part dans tous les sens. Hein. C'est exactement ce qui se passe. Hein. C'est exactement la réalisation de ce... Mais c'est vrai, il n'y a plus aucun ordre, il y a une espèce de cataclysme. Les étoiles qui doivent être, je veux dire, c'est le symbolisme quand même, les étoiles, c'est ça. Parce que si vous prenez ça d'une façon réaliste, ça ne va plus du tout. C'est un symbole, ça. Vous voyez, on parle beaucoup de la pollution de l'air et de la pollution de la terre. On ne parle jamais de la pollution de notre culture et du milieu dans lequel on est. Eh bien ici, le sixième souffle montre la pollution du milieu. Le démon ne peut pas attaquer directement la foi, l'espérance et l'amour, mais il attaque tout le milieu dans lequel on est. Et tout le milieu dans lequel on est détraque tout. Et c'est vrai, ce milieu qui devrait être éclairé par la présence de Jésus, le soleil, pacifié par la présence de Marie, éclairé par les docteurs, les théologiens, et tout ça est détruit. Puisque le soleil devient comme un sac de grain. La lune comme du sang. Et l'éparpillement complet de tous ceux qui devraient donner un peu de lumière. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Le ciel, c'est la contemplation. Toujours. C'est le lieu de la contemplation, le ciel. Se retira comme un livre qu'on roule. Plus de contemplation. Et toutes montagnes et îles furent ôtées de leur place. Ce qui apparaît comme le plus stable, c'est la montagne. Plus aucune stabilité. La stabilité n'existe plus. Les montagnes et les îles furent ôtées de leur place. Et alors la conséquence, c'est l'angoisse. Et les rois de la terre, et les grands, et les capitaines, les riches, les puissants, tout esclave et homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Vous savez bien, dans l'Apocalypse, c'est très net, dans les Apocalypses du moins, dans ce que quand Jésus annonce la fin, il dit, c'est pas les guerres, c'est l'angoisse. C'est toujours l'angoisse. Et ici, il montrait d'une façon symbolique, d'une façon très étonnante, ce que représente cette angoisse. Et cette angoisse fait que on ne peut pas, ça ne peut pas durer. Hein. Alors on comprend très bien ce qu'il dit. Ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône. La peur de Dieu. Et la peur de Dieu fait que on demande que ces montagnes saisissent. Alors on se détruit. Celui qui est assis sur le trône est de la colère de l'agneau. Car il est venu le jour, le grand jour de leur colère qui peut tenir. Je crois que nous pouvons comprendre que nous sommes prédestinés à travers tout cela. Encore une fois, c'est différent selon chaque époque, mais pour nous actuellement c'est extrêmement clair. Et nous sommes prédestinés à travers tout cela, pour chacun d'entre nous, hein, il y a ces six dimensions. Le sixième sceau a existé à la croix, on ne peut pas nier. Ils ont tous existé. Maintenant, Jésus est prédestiné, hein, puisque c'est à travers lui que tout le mystère de la prédestination se fait. Et pour chacun d'entre nous, le mystère de la prédestination se fait à travers ces luttes. Lutte intestine, lutte externe. Le démon a un pouvoir sur notre univers. Et le démon secoue notre univers. Et alors je crois que nous pouvons interpréter de cette manière-là. Encore une fois, ça n'exclut pas les autres interprétations. Après cela, je vis debout, aux quatre coins de la terre, quatre anges qui retenaient les quatre vents de la terre. Alors c'est toujours cette vision extraordinaire de l'Apocalypse. Vous voyez, il est dit, car il est venu le jour, le grand jour de leur colère, qui peut tenir? Ça semble être universel, que la lutte est tellement forte, il n'y a plus rien. Alors, vision du ciel. Tout ça est permis. Dieu permet ces bouleversements. Dieu permet ces cataclysmes. Dieu permet ce pouvoir extraordinaire du démon sur le milieu dans lequel on est. Pour faire que ce milieu soit complètement pollué et qu'on n'arrive plus à respirer un air pur. Tout ça est permis. Alors on nous montre, après cela, je vis debout aux quatre coins de la terre. Quatre anges qui retenaient les quatre vents de la terre, pour qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni aucun arbre. On vient de dire le contraire, parce qu'on dit que le figuier, il est le fruit de l'ouragan. Oui, cette espèce de contraste. Ce qui est le plus subtil et qui relève de la puissance de Dieu, c'est d'arrêter les vents. C'est dit dans l'Écriture. Hein. Quand Jésus dit au vent de s'arrêter, les apôtres sont baba. Ils sont obligés de dire qu'il y a quelqu'un. C'est vrai, parce que d'arrêter le vent, personne n'arrive. Et alors, on voit cette espèce de puissance de Dieu aux quatre coins de la terre. Il est là, retenant les quatre vents de la terre. Oui, c'est ce contraste qui est ça de notre vie. Hein. C'est qu'on est dans la bourrasque. Il suffit d'un acte de foi, d'espérance et d'amour. Et on voit tout de suite que tout est dans les mains de Dieu. Alors il y a cette paix intérieure, merveilleuse, qui ne supprime pas la tornade à l'extérieur et qui nous donne le ciel. Après cela, je vous debout aux quatre coins de la terre. Quatre anges qui retenaient les quatre vents de la terre pour qu'il ne soufflât pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du soleil levant avec le sceau du Dieu vivant. Alors, quel est cet ange? Je me demande si constamment dans l'Apocalypse, quand on voit un ange particulièrement majestueux, puisqu'il monte, un autre ange monté du soleil levant. Le soleil levant, c'est le Christ. Monté du soleil levant, avec le sceau du Dieu vivant. Je me demande si ce n'est pas Marie comme reine. La régence de Marie est très marquée dans l'Apocalypse. Vous voyez, je ne peux pas l'affirmer. Hein. Mais si je comprends au point de vue théologique, ça ne peut être que Marie. Pas les quatre anges aux quatre coins, ça c'est autre chose. Hein. C'est... Mais là, c'est directement marqué le sceau sur chacun. Ne nuisez pas. D'une voix forte aux quatre anges, ne nuisez pas sur ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau sur leur front les esclaves de notre Dieu. Et j'entendis le nom de ceux qui étaient marqués. Alors cette fameuse passage que nous connaissons bien, surtout quand on le lisait en latin. Alors c'est ça, ça revenait avec un rythme particulier. 144 milliers marqués de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Judas, 12 000 étaient marqués. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, toutes les tribus, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 étaient marqués. Je crois que c'est Marie qui marque au front. Vous voyez, c'est au sixième saut. C'est la marque de la victoire. C'est pas le cheval blanc du début, c'est la marque de la victoire. Après cela, je vis, et voici une foule nombreuse que nul ne pouvait compter, de toute nation et de toutes les tribus, de peuple, de langue, debout, devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes dans leurs mains. Et ils crient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des quatre vivants. Ils tombèrent devant le trône, sur leur face, et se prosternèrent devant Dieu, en disant « Amen ». La louange et la gloire et la sagesse, l'action de grâce, l'honneur et la puissance et la force soient à notre Dieu pour les éternités d'éternité. Amen. Donc vous voyez bien, à la fois le nombre et en même temps l'infini. C'est très beau ça. Le nombre pour bien montrer que tout est dans la sagesse de Dieu. Et alors c'est les 12 tribus, ça il faudra réfléchir là-dessus. Les 12 tribus d'Israël qui sont là, et comptées. Puis après, la multitude. Alors je crois que ce qui est très important, c'est pour que nous comprenions justement ce mystère de la sagesse de Dieu. La sagesse victorieuse. Ils sont nombrés. Et en même temps, c'est infini. Au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre. Alors, ce qui me semble important, c'est de saisir ce contraste qui est constant dans l'Apocalypse. Et c'est ça qui nous déroute. Parce qu'on passe du ciel, de la terre au ciel, du ciel à la terre. Le combat le plus terrible sur la terre, sixième saut, où tout paraît complètement bouleversé. Et en même temps, cette lumière qui vient du ciel. Tout est dépendant de Marie. Puisque tout est en dépendance. On attend qu'elle marque sur le front du sceau de Dieu tous ceux qui sont les élus.